Elles sont nombreuses, ces superstitions. Ramasser un trèfle à quatre feuilles, faire un vœu devant une étoile filante, ou en soufflant ses bougies, toucher du bois, ou alors à l'inverse, comme pour conjurer le mauvais sort, éviter de passer sous une échelle, de croiser un chat noir, ou de poser le pain à l'envers. Elles ont aussi traversé les âges, et l'être rationnel qui est au fond de nous a beau dire « mais tu sais que ça ne marche pas », on y croit quand même. D'ailleurs, est-on sûr que ça ne marche pas? Ces petits gestes ont au moins un pouvoir qui n'a rien de magique, ils nous rassurent. Ils nous donnent des repères dans ce monde incertain qui nous entoure, calment l'anxiété et procurent aussi un sentiment de confiance, une sorte de dopage au naturel et qui touche tout le monde, le sportif, l'homme politique, vous, moi. Peut-on se passer de superstition? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal. Et c'est le hors-série de Philosophie Magazine qu'on feuillette aujourd'hui avec vous, Sonia Ferchak, bonjour.
Bonjour Thomas Chauvineau.
Vous êtes écrivaine, votre dernier livre, La vérité tue, Agatha Christie et la famille, s'est publié d'ailleurs chez Philosophie Édition, sorti cette année. Et vous avez aussi collaboré à ce hors-série consacré à l'amitié. Et il n'y a pas que les histoires d'amour qui finissent mal, Sonia Ferchak, les histoires d'amis aussi.
Oui, c'est quelque chose, je trouve, on parle beaucoup des chagrins d'amour et on parle beaucoup moins des chagrins d'amitié. Sans doute parce que il y a dans le chagrin d'amour souvent une rupture brutale. C'est d'ailleurs la question que je me suis posée, c'est faut-il rompre de façon explicite une amitié dont elle sent qu'elle n'apporte plus grand-chose. Et voilà, pour l'avoir expérimenté, la fin d'une amitié, ça peut être quelque chose qui l'anime.
Quand vous parlez d'expérimentation, vous commencez l'article un peu à l'anglaise d'ailleurs, hein, en vous citant. Voilà, je suis, moi, Sonia Ferchak, confrontée à ce problème, je dois rompre avec une amie, comment faire? Et c'est assez intime, oui. ce questionnement, peut-être même plus intime d'ailleurs que la rupture amoureuse.
Oui, parce que ça a été dit plusieurs fois dans le numéro, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu flou dans je crois que c'est André Comte-Sponville qui dit ça, dans le sentiment d'amitié, qu'est-ce que l'amitié? Et c'est vrai que je me pose cette question, comment rompre une amitié qui ne me nourrit plus, et je me demande s'il est plus honnête, parce que je ne voudrais pas ghoster, comme disent les anglo-saxons, cette amie. Et donc je me pose la question de la légitimité de la rupture amicale. Alors, ce que j'observe d'abord, c'est que on parle souvent d'histoire d'amour, on parle beaucoup moins d'histoire d'amitié. L'amitié n'est pas inscrite dans une temporalité comme l'est l'histoire d'amour, qui a, comme dans une histoire qu'on raconte, un début, un milieu, un point culminant, une fin, parce que souvent l'histoire d'amour, elle commence par un baiser, une étreinte, une déclaration. L'amitié, c'est souvent a posteriori qu'on se dit, tiens, on est devenu amis, on s'est dit des choses intimes hier soir, on se rapproche. Même si dans le cas de l'ami dont je parle, c'est vrai que la première fois que j'ai vu cette jeune femme, on était jeune fille à l'époque, je me suis dit, waouh, elle a l'air époustouflante, elle est vivante, j'ai envie de m'approcher d'elle. Donc la question de la temporalité déjà n'est pas du tout la même dans l'histoire d'amour et dans l'amitié. Mais surtout, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant d'un point de vue philosophique, et tout le numéro d'ailleurs, tout ce numéro sur l'amitié de Philosophie Magazine est intéressant, parce que s'interroger sur l'amitié, c'est qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui nous intéresse. Il y a une dynamique, parce que ça a été dit plusieurs fois dans le numéro, que ce soit Angelina au début du numéro qui dit dans la relation amicale je prends conscience de qui je suis, ou Pascal Bruckner qui dit joliment l'ami vous hisse au-dessus de vous-même. Il y a une dynamique de l'amitié. L'amitié doit nourrir et connaissance de soi, connaissance du monde, et ça touche à la vérité, l'amitié.
Ce que vous dites,
c'est la grosse bascule. C'est Francis Waltz d'ailleurs qui se pose cette question. C'est que dire, que taire à l'ami, parce que là, on doit pouvoir dire des vérités, parce que c'est ce qu'on attend d'un ami. C'est ce qu'on a envie de dire à un ami, et en même temps, on lui veut du bien. Donc, quand la vérité est trop cruelle, que faut-il faire?
Ce que vous racontez aussi, c'est que c'est quelque chose, d'ailleurs un peu comme le sentiment amoureux, de très égoïste. Ça peut être très égoïste, l'amitié. Hein. On cherche dans l'ami à avoir finalement le reflet de ce qu'on est soi-même. Il n'y a pas vraiment de noblesse dans l'amitié.
Alors, C'est compliqué, là aussi c'est vraiment une crête, c'est-à-dire que c'est vrai, il existe une dynamique de l'amitié, parce que si l'amitié ne nourrit plus, elle se délite, en général on cesse de se voir. Et ce qui est compliqué, c'est que, donc la question de l'utilité ou non de l'amitié se pose, mais si on la recherche à tout prix, cette dynamique, c'est pas de l'amitié. Si on recherche trop l'utilité dans l'amitié, c'est pas de l'amitié. Mais il n'empêche que si la dynamique n'existe pas, l'amitié se désagrège. Donc il faut, sans le chercher, fournir et en retour, trouver quelque chose qui nous est utile. C'est Aristote qui disait, l'ami, c'est celui qui nous aide à devenir meilleur. Et de ce point de vue-là, ça touche à ce que vous disiez, c'est que l'ami doit nous tendre un miroir. Et c'est même cet intermédiaire sans lequel je ne peux pas me connaître. En tout cas, grâce à ce miroir que me tend l'ami, je découvre des parts de moi, comme dans l'amour d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Et c'est là où il y a cette dynamique qui doit être entretenue par des moments partagés.
Alors, je ne vais pas spoiler la fin de l'article pour savoir si oui ou non vous avez rompu et de quelle manière avec votre ami. Mais il me semble aussi que ce que vous sous-entendez, c'est que c'est peut-être plus facile de recoller les morceaux avec un ami qu'avec un amant.
Oui, alors ça c'est sûr, parce que d'abord il n'y a pas la dimension du désir érotique, même si c'est dit surtout au début du numéro avec les très jeunes, enfin voilà, il y a quelque chose de toute façon qui touche à Eros dans l'amitié, mais disons qu'il n'y a pas cette idée de faire durer le désir, il y a moins de tension, on n'est pas obligé de vivre, d'ailleurs on ne vit pas, on vit rarement avec ses amis, ou alors ponctuellement, pendant les vacances par exemple, mais...
On couche rarement avec ses amis, pour le dire tout de go.
On couche rarement avec ses amis, même si les Anglais ont inventé les sex friends, mais oui, je pense qu'on peut toujours, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire dans l'amitié et qui est très réconfortant, c'est qu'on peut toujours dire ce qu'on a sur le cœur, et là aussi ça touche à la notion de vérité, et quand on dit les choses et pour soi et pour l'autre, il y a la possibilité d'une concorde, et on peut se réconcilier, sans doute beaucoup plus que dans l'amour. Et ça c'est, et puis l'amitié évolue au cours de la vie aussi, donc des vieilles amitiés, ça c'est aussi extraordinaire de pouvoir se dire, bah voilà, on éprouvait ça quand on avait une vingtaine d'années, puis quand on a eu 30 ans, au fur et à mesure de la vie qui passe, l'amitié change et elle prend de nouveaux contours. Et c'est vrai qu'elle est très souple, sans doute plus souple que l'amour.
Et ben, je vous souhaite en tout cas, Sonia Ferchak, de retrouver un jour ou l'autre cette amie avec laquelle vous souhaitez rompre. La rupture amicale, donc, c'est à lire dans les pages du hors-série de Philosophie Magazine, consacré donc à l'amitié. Merci, bonne journée à vous.
Bonne journée Thomas Chauvignon, au revoir.
Au revoir.
Vous enfilez toujours le même chandail quand vous allez acheter vos billets de loto? Ça, c'est comme faire le vœu de gagner le gros lot à 11h11. Ou de toujours prendre votre date de fête comme numéro de loterie. C'est sympathique, mais ça n'augmente pas vos chances de gagner. Désolé pour votre chandail chanceux.
Quatre invités pour s'intéresser aujourd'hui à la question des superstitions. Sébastien Boller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, également docteur en neurobiologie. Ariel Suami, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, directeur de la collection La vie des idées, c'est chez PUF, et vous êtes spécialiste de Spinoza. Nicolas Gauvry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, chercheur en sciences cognitives à l'École pratique de hautes études à Paris. Et enfin, Marie-Charlotte Delmas, bonjour.
Bonjour.
Sémiologue, spécialiste des superstitions populaires, autrice du Dictionnaire de la France mystérieuse. Justement, dans ce dictionnaire, vous abordez évidemment le vendredi 13, Marie-Charlotte Delmas. Oui. D'où vient cette peur du vendredi 13 ?
Alors, en fait, la superstition liée au vendredi 13, c'est une superstition plutôt récente. Entièrement lié au christianisme et qui conjugue deux anciennes superstitions. Alors, pour la comprendre, il faut mettre de côté le vendredi d'un côté et le nombre 13 de l'autre. Alors, le vendredi, c'est le jour de la mort du Christ et il est considéré comme un jour néfaste. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, on a des manuscrits qui s'appellent les recommandations du vendredi, où on énonce tous les tabous du vendredi. Il faut rien faire le vendredi, hein. Il faut même pas se couper les cheveux, les ongles, ne pas entamer un voyage. Enfin bon, il y a tout un tas de tabous liés au vendredi. On dit même que les grandes catastrophes bibliques se sont passés un vendredi. Alors, le déluge a commencé un vendredi, Adam et Ève ont été chassés du paradis un vendredi, etc., etc. Donc, le vendredi est à bout. Le nombre 13, qui normalement devrait être un nombre favorable, parce que chez les Romains, les nombres impairs, sont favorables. Donc, ce nombre 13 rappelle, en fait, le nombre de convives lors de la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. Et donc, il va falloir éviter de se rassembler à 13, notamment pour un repas. Et on ne trouve que ça quasiment jusqu'à la mi-19e siècle. Voilà, si on est 13 à un repas, c'est pas bon. Une des personnes à table va mourir. Et d'ailleurs, on raconte une petite anecdote concernant Victor Hugo. Un jour, il a fait retarder un repas parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait 13 convives et le temps de trouver un quatorzième. Voilà. Donc, du coup, le 13, c'est un peu étendu. On a évité les étages 13, on a évité les wagons 13 dans les trains, dans les chambres de certains hôtels, etc. Et puis, avec le développement des loteries, vraisemblablement, on a associé ce vendredi et ce 13 pour en faire un jour singulier. Alors, il n'est ni bon ni mauvais. Il est singulier, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de chance ce jour-là. Et malheureusement, j'ai eu l'occasion de croiser des gens pour qui ce jour était considéré comme un jour terrible. Et voilà, donc c'est dommage.
On a évidemment tous en tête le souvenir d'un vendredi 13 tragique pour la France. Ariel Suami, c'est vrai que ce vendredi 13, c'est un peu le Janus à deux faces. Il fait peur, certes, mais il est aussi censé porter chance. Alors, qui croire ?
Oui, c'est le caractère des superstitions, c'est d'être très versatile. Et donc, en général, traditionnellement, les superstitions, ça renvoie quand même plutôt à la crainte. Les superstitions sont nées, selon les philosophes, notamment selon Spinoza, essentiellement de la crainte. Mais alors après, on peut retourner quelque chose qui fait objet de crainte, puis la crainte est toujours liée à l'espoir. Donc, il peut arriver effectivement que ce qui est objet de crainte devienne objet d'espoir. C'est le cas du vendredi 13 ou du chiffre 13, que certains considèrent comme ominous et d'autres comme, au contraire, favorables.
Nicolas Gauvry, vous êtes aussi mathématicien. Je vous ai présenté comme psychologue et chercheur en sciences cognitives. Mais le chiffre 13, donc on vient de l'expliquer, pâtit de sa position, mais il est surtout juste après le chiffre 12, ce qui n'aura échappé à personne. Mais le chiffre 12, il est souvent considéré comme complet par les numérologues. Il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 signes du zodiaque, il y a, les 12 dieux de l'Olympe, les 12 travaux d'Hercule, les 12 apôtres.
Oui, alors on peut trouver à chaque fois beaucoup de... Pour chaque nombre, on peut trouver beaucoup de caractéristiques, mais plutôt symboliques. Mais effectivement, le 12 était considéré comme un nombre parfait. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que d'autres participants à l'émission sont mieux placés que moi pour en parler. Et du coup, le 13, c'est un de trop. Mais alors ça correspond aussi à l'histoire chrétienne, du coup. Mais moi, ce qui m'avait surtout amusé avec ces histoires de nombres, c'est que une partie des psychologues qui travaillaient sur les représentations des nombres et qui se demandaient pourquoi certains nombres comme le 13 sont chargés, étaient partis sur une piste un peu mathématique et qui s'est complètement effondrée. Et je trouve que le début de l'émission l'a bien montré vers quoi il faut aller, en fait. Et cette histoire-là, ça a commencé avec le 7. Parce qu'en fait, il y a un résultat bien connu en psychologie, c'est que quand on demande aux gens de donner un nombre entre 0 et 10 ou entre 1 et 9, donc un nombre d'un chiffre, ce qui ressort le plus fréquemment, c'est le 7. Et on se demandait pourquoi, qu'est-ce qui fait que le 7 ressort comme ça. Et donc il y a eu toute une théorie qui a été mise en place pour dire que le 7, c'était le seul nombre entre 1 et 9 qui n'avait aucune particularité, parce que c'est ni un extrême comme le 1 ou le 9, ni un nombre pair, ni le milieu comme 5, etc. Et alors il y a eu toute une théorie mathématique pour dire qu'en fait on choisit le 7 parce que c'est celui qui a le moins de propriétés mathématiques. C'était très séduisant, sauf qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on s'aperçoit que c'est plus du tout le 7. Alors dans certains pays, ça sera le 4, dans d'autres c'est le 3, dans l'autre c'est le 6. Bon, donc finalement, le 7, on peut pas expliquer sa prédominance et le fait qu'on y pense tout de suite et que c'est souvent le nombre préféré par des histoires mathématiques. Et en fait, là, c'est un cas, voilà, les représentations des nombres, c'est vraiment un cas où les propriétés mathématiques ne sont pas de beaucoup de secours en réalité, parce qu'on, finalement, la conclusion de toutes ces recherches
C'est qu'il n'y a pas de conclusion, en fait.
C'est pas qu'il n'y a pas de conclusion, mais c'est qu'il ne faut pas chercher du côté mathématique. Il n'y a que si le 7 est plus représenté, c'est pour des raisons qui sont plutôt symboliques, exactement comme pour le 13. Donc, c'est rattaché à des histoires qui peuvent être religieuses ou pas, mais c'est plutôt symbolique que mathématique.
Sébastien Boller, si je vous demande de choisir un nombre entre 1 et 9, au hasard, vous choisissez lequel ?
3.
Ouais. Sébastien Boller de Cerveau et Psycho. Alors justement, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, pourtant bien faites ? Qu'est-ce qui fait qu'on y croit quand même un peu ?
Alors ça, c'est ce qui est très frappant quand on évoque toutes sortes de superstitions. Par exemple, le nombre 13, c'est que une fois que le symbole est mentionné ou apparaît, il y a tout de suite une prédiction qui est faite sur ce qui peut arriver. On vous dit vendredi 13, oh, il va y avoir un malheur. Par exemple, où vous passez sous une échelle, ah, il va y avoir un malheur. Enfin, vous trouvez un trèfle à quatre feuilles, il va m'arriver quelque chose de positif. Ce qui est très frappant du point de vue du fonctionnement mental de l'être humain, c'est la notion de prédiction. C'est-à-dire que l'être humain a besoin de s'organiser pour survivre depuis toujours et de savoir qu'est-ce qui peut arriver dans son environnement. Dès qu'il peut faire une prédiction sur ce qui peut arriver, que ce soit l'arrivée de la pluie, quand vous êtes agriculteur, que ce soit l'arrivée d'un prédateur, par exemple, si vous êtes un homme préhistorique, c'est autant de chances de survie en plus. Donc notre cerveau passe son temps à essayer d'anticiper ce qui va arriver. Et il a même un repli de son écorce cérébrale, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est assez spécialisé dans le fait de faire des prédictions. Alors, les superstitions, elles sont assez fabuleuses pour ça, parce qu'elles donnent une sorte de code, de mode d'emploi du réel. Vous dites, si tu fais ça, ça va aller. Si tu fais pas ça, ça va pas aller. Il y a tout un petit code comme ça qu'on peut utiliser, même quand on n'a pas forcément des outils conceptuels très élaborés, par exemple, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, qu'est-ce que c'est que la politique internationale, comment fonctionne la bourse. Quand on a des superstitions, on a quand même des petites clés pour essayer de savoir ce qui va arriver. Ce qui est important de retenir, c'est que quand notre cerveau n'arrive pas à se projeter, à faire des prédictions sur ce qui va lui arriver dans son environnement, il y a un signal d'alarme qui est tiré dans le cerveau, hein, par cette partie du cerveau que je mentionnais, et qui se traduit par la libération d'hormones du stress, comme le cortisol, comme la noradrénaline, et qui fait qu'on se sent pas bien parce qu'on a l'impression de ne pas maîtriser son environnement. Ce qui est très intéressant dans les recherches sur les superstitions, c'est la notion de perte de contrôle et d'angoisse. Et quand vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas votre monde, avoir des petites clés comme ça, ça fait baisser justement les taux d'hormones du stress.
Ça rassure.
Ça rassure fondamentalement. Et les rituels, encore plus, on va peut-être en parler, mais c'est un peu de la même sphère conceptuelle que les superstitions.
Sur franceinter.fr, Audrey nous écrit « La superstition du 13 !» point d'exclamation. Mon père est né le 13 janvier 1913, il habitait au numéro 13 et l'entreprise qu'il a créée était aussi au numéro 13 quand il est tombé gravement malade. Il est tombé dans le coma un vendredi 13, il était alors à Marseille, département 13, alors que ce n'était pas sa ville d'origine et dans le 13e arrondissement de Marseille qui plus est. Et j'aime depuis jouer au loto les vendredis 13 car c'est aussi le jour où il m'a reconnu, c'est une façon de penser à lui, de garder le lien et la mémoire. Alors c'est vrai qu'il y a des conséquences de l'existence de ce vendredi 13, par exemple sur l'activité économique. Il y avait une étude qui avait été menée qui disait que chaque vendredi 13, il y avait une perte de 650 à 730 millions d'euros pour l'économie parce que les gens ne prennent pas l'avion, ne vont pas travailler comme d'habitude, finalement transforment leurs activités parce que précisément nous sommes le vendredi 13, Ariel Suami.
Oui, ça a des effets, mais alors la question que je me pose en écoutant monsieur à l'instant, c'est de savoir quelle est la cause et quel est l'effet. Parce que vous vous dites, en fait, s'il n'y a pas ce mécanisme de superstition, alors on tombe dans l'angoisse et le stress. Alors que dans l'analyse philosophique traditionnelle, qu'on la trouve aussi bien chez Spinoza, chez d'autres, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on suppose que ce qui vient au départ, c'est l'angoisse, et que c'est pour conjurer l'angoisse que l'on invente, que l'on va chercher des présages un peu partout selon des mécanismes d'association psychologique. Oui. Et ce n'est que... Et alors, évidemment, ça nourrit à nouveau l'angoisse. Mais enfin, ce qui vient en premier, c'est quand même la crainte de l'avenir et l'incapacité d'y répondre de manière adéquate.
C'est clairement ça, hein.
Sébastien Boller.
Je défends pas du tout une vision opposée. Je me suis peut-être mal exprimé. Je pense qu'au départ, c'est vrai qu'il y a une angoisse devant le monde, devant l'inconnu, et que se créer des gestes calibrés, ça on le voit expérimentalement. Hein. On peut expérimentalement créer par exemple des conditions qui sont stressantes pour des participants, et voir que spontanément, ils vont adopter par exemple des mouvements qui sont plus stéréotypés, qui sont plus organisés dans l'espace, se créer des mini-rituels, des choses comme ça. Donc c'est une réponse à l'angoisse, c'est vrai.
Pourquoi tient-on aux superstitions? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous aussi. Hein, racontez-nous vos gris-gris, vos vêtements magiques, vos amulettes porte-bonheur sur l'appli ou sur le site de France Inter. Il est midi 24. Bonne journée à vous tous. Le blues rock de Caraïbes de Delgrès. Et pour les amateurs, c'est à Delgrès que nous avons emprunté le générique du débat de midi.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Quatre invités aujourd'hui pour parler des superstitions. Sébastien Boller, qui est rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho et docteur en neurobiologie. Ariel Souamy, qui est philosophe. Nicolas Gauvry, qui est psychologue et mathématicien. Et puis Marie-Charlotte Delmas, spécialiste des superstitions populaires. Et puis ces messages que vous nous envoyez, beaucoup d'auditeurs s'amusent avec cette phrase « Je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur ». Caroline, qui est à Lyon, nous dit « À mon arrivée à Lyon, j'ai échoué à tous mes entretiens d'embauche. Je n'arrivais pas à trouver un travail, j'ai reçu un prospectus de marabout dans ma boîte aux lettres. Je n'y ai pas touché du tout et très peu de temps après, j'ai eu un poste. Alors, je ne suis normalement pas superstitieuse, mais depuis, je laisse toutes les pubs de marabout dans ma boîte aux lettres. Et puis Anne qui nous dit « Mon mari et moi, nous sommes mariés le vendredi 13 août 2008. C'était la seule date disponible. Nous ne sommes pas superstitieux ni l'un ni l'autre. Autre petit clin d'œil, nous fêtons aujourd'hui notre 13e anniversaire de mariage. Mais écoutez, bon anniversaire, Anne. Merci pour votre émission. Si j'étais superstitieuse, j'y verrais un signe. » Quand on regarde les chiffres de la Française des Jeux, 2 millions à peu près de joueurs quand il y a un tirage habituel pour le loto, 4 à 5 millions de joueurs là, aujourd'hui, un vendredi 13. Et puis quand on regarde les sondages, alors les chiffres sont toujours un peu variables, mais entre 40 et 70% des Français se disent superstitieux, un nombre conséquent. Comment on peut expliquer ça, Sébastien Boller?
C'est le pouvoir de la croyance, c'est-à-dire que toutes ces tous ces symboles sont investis de croyances, c'est-à-dire qu'on se persuade qu'ils ont un véritable effet sur le réel. C'est vraiment l'origine des superstitions. Et l'exemple de cette auditrice est assez éloquent, je trouve. L'histoire du catalogue marabout dans la boîte aux lettres. Et puis, quelques jours après, on obtient quelque chose de très gratifiant. Et on sait très bien aujourd'hui comment notre cerveau fonctionne par rapport à ça. C'est-à-dire que le marabout, c'est un événement de votre vie qu'on va appeler un stimulus qui apparaît à un moment donné et qui est suivi d'une récompense. Et quand un stimulus donné est suivi d'une récompense, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, la fois d'après, va éprouver du plaisir par anticipation dès qu'il va voir le stimulus. Il y a une libération d'une molécule dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine qui commence dès qu'il va voir le catalogue marabout parce qu'il s'attend à ce qu'il se produise la même chose.
C'est le Pavlov de la superstition.
C'est exactement ça. Alors ça, il faut comprendre que c'est un avantage, en fait, quand on vit dans un milieu naturel, de repérer des choses qui se reproduisent de façon régulière. Savoir qu'on vit dans un monde qui n'est pas chaotique, où il y a des causes et des effets. C'est la première brique de ce qu'on pourrait appeler le sens. Je crois que c'est de là que ça vient. On est fait pour capter des indices autour de nous et pour croire qu'il va se passer soit la même chose que ce qui est déjà arrivé à moi ou à un autre, en tout cas, voir que le monde a un sens, parce que ça rassure encore une fois. Et là, on est tous là, 5 millions, à se dire, voilà, le vendredi 13, si les autres y croient, c'est pas pour rien. Ça, ce sont d'autres mécanismes de jugement un peu approximatifs dans notre cerveau, qui s'appellent les heuristiques, qui font que on se dit, par exemple, quand on voit une longue queue devant un restaurant, c'est que le restaurant doit être bon, donc je vais y aller moi aussi. Donc il y a des phénomènes d'amplification, d'agglutination qui se produisent.
Marie-Charlotte Delmas, dans votre dictionnaire de la France mystérieuse, vous revenez donc sur l'origine de ces superstitions, si c'est possible de retracer les origines. Alors, par exemple, il y a ce fameux passer sous une échelle qui porterait malheur. Alors, pourquoi on ne passe pas sous une échelle, Marie-Charlotte Delmas?
Eh bien, on n'en sait rien. Voilà, ça fait partie.
Ah, non, merci.
Ça fait partie. Non, mais c'est parfait parce que il y a des superstitions. Alors, les superstitions ne sont jamais expliquées. Moi, je les explique en émettant des hypothèses logiques. Mais le principe de la superstition, c'est de ne pas avoir d'explication, ce qui lui donne sa force magique, en quelque sorte. Donc, passer sous une échelle. Il y a plusieurs hypothèses. Alors, on dit que c'est le triangle sacré, mais bon, j'y crois pas vraiment. Et en tout cas, c'est une superstition que je n'ai pas retrouvée dans les milliers de documents que j'ai dépouillés pendant 30 ans sur les folkloristes, dans les livres des folkloristes et sur les collectages. Parce qu'en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui des superstitions, en grande partie, ce sont les collecteurs du 19e siècle qui nous les fournissent et qui sont allés dans les campagnes relever toutes les croyances de l'époque. Et on a quelques ouvrages au Moyen-Âge, on a quelques ouvrages dans l'Antiquité, comme l'histoire naturelle de Pline, qui nous permettent de voir que des superstitions qu'on trouve donc au 1er siècle de notre ère chez Pline l'Ancien, on va les retrouver au 19e. Mais on n'est jamais assuré d'une continuité. Le grand réservoir des superstitions, c'est l'almanach. Tous les dans cette France rurale, qui est encore la France du début du XXe siècle, on va dire, dans cette France rurale, l'almanach est dans toutes les familles parce que il permet de connaître les jours, les saisons, les lunes. Voilà, c'est à la fois l'agriculture et la vie. Et donc, on a des superstitions tous les jours. Ce dont on se rend compte, c'est que la superstition, on va dire païenne entre guillemets, est presque toujours, en tout cas souvent, associé au christianisme. Et que ce christianisme a eu beaucoup de mal à s'implanter, et qu'on retrouve encore au IXe siècle, dans les canons des conciles par exemple, des injonctions qui sont faites aux évêques pour qu'ils les transmettent aux curés, où on demande aux gens de ne pas apporter par exemple des cierges devant les pierres sacrées, les arbres sacrés, les fontaines sacrées. Et on va christianiser tout cela, et on va mettre des petites statues de saints dans les arbres, on va mettre des noms de saints sur les fontaines, par exemple guérisseuses, une fontaine qui guérit les yeux, on va l'appeler la fontaine Sainte-Claire. C'est-à-dire que, en fait, le peuple va continuer les mêmes rites, mais au lieu de s'adresser aux petites divinités qui s'incarnent dans la nature, eh bien, il va s'adresser à des saints du christianisme.
Avec un procédé d'acculturation en quelque sorte.
Voilà.
Alors, en même temps, ces superstitions datent pour certaines du Moyen Âge, pour d'autres du 19e, comme vous venez de nous l'expliquer, ou alors de l'époque du christianisme, mais d'autres encore plus anciennes. Je lisais en préparant cette émission que, par exemple, le fait de toucher du bois serait lié aux Perses parce que le bois était une matière noble à l'époque et que toucher du bois c'était une façon de confier son âme à un dieu perse.
Alors moi, j'y crois pas.
Bon, c'est l'une des explications, parce que évidemment sur les superstitions, elles sont impossibles à expliquer. Mais
bah si,
ce que je veux dire, c'est Nicolas Gauvry, comment on peut comprendre que certaines aient traversé comme ça les siècles?
Alors là, je ne sais pas vous dire en général. Moi, il me semble que toutes les superstitions sont pas liées à la même, ont pas la même origine. Et alors, j'étais très content d'entendre qu'on ne savait pas trop pour les échelles, parce que moi, j'ai une hypothèse toute bête, mais évidemment, je ne sais pas si c'est la bonne hypothèse, mais c'est juste que c'est devenu une superstition parce que c'est dangereux de passer sous une échelle,
oui,
parce qu'on risque de se prendre un truc
évidemment
sur la tête. Et que ben, peut-être que ça a été transformé, c'est une sorte de conseil de bon sens qui aurait pu être transformé en superstition parce que, du fait qu'il y a une valeur magique, justement, ça rend la chose plus forte. Et que peut-être, simplement, si on dit aux enfants qu'il va leur arriver malheur par quelque chose de magique, ça les inquiète plus et ça les rend plus prudents que si on leur dit juste qu'il ne faut pas passer sous une échelle parce qu'on peut se prendre quelque chose sur la tête. Alors évidemment, ça ne marche pas pour toutes les superstitions, mais il y en a quelques-unes comme ça qui peuvent s'expliquer en fait par ça. Je pense à une autre, à moins qu'il y ait une autre explication historique, hein, mais l'histoire du parapluie à l'intérieur, par exemple, je pense qu'on peut casser des choses ou mettre une baleine dans l'œil d'un voisin.
Donc méfions-nous du parapluie. Marie-Charlotte comme de l'échelle. Marie-Charlotte Delmas. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette idée que toucher du bois viendrait de la Perse. Mais néanmoins, elles ont quand même traversé les âges. Donc comment on peut l'expliquer? Parce que c'est ça qui est fascinant, je trouve, dans ces superstitions. C'est qu'elles ont la vie dure.
Bien, écoutez, toucher d'abord les paysans qui parlent de cette superstition de toucher du bois ne connaissent pas la Perse et ses rites sacrés. Donc, par contre, ce qu'ils savent, c'est qu'il y a des arbres qui peuvent guérir et qu'il suffit de se lier à eux pour transférer son mal à l'arbre. Et que donc, quand on a, par extension, un problème quelconque, si on va toucher un arbre, on transfère à l'arbre son problème. Et donc l'arbre devient un élément protecteur, un élément guérisseur. Et puis il y a la croix du Christ. On allait toucher la croix du Christ aussi pour être protégé. Donc j'irai plutôt vers ces deux hypothèses qui peut-être se sont amalgamées pour parler de toucher du bois. Ensuite, pourquoi certaines superstitions restent et pourquoi d'autres disparaissent? Alors, la science va effectivement supprimer un certain nombre de superstitions. Pourtant, on ne peut pas réduire la superstition à une étape du savoir et de la connaissance. La preuve, c'est qu'il y en a qui demeurent encore aujourd'hui, et que la superstition correspond à un système de pensée bien précis, qui prend ses racines dans l'animisme d'ailleurs, c'est-à-dire que tout élément, comme l'homme, qui est un élément comme les autres, va être doté d'une vie, d'une existence propre, d'une âme, d'où le mot animiste, et va pouvoir interagir avec les hommes. Et d'ailleurs, chez les gréco-romains, non seulement il y avait des dieux, mais il y avait aussi toute une foule de petites divinités qui assistaient les hommes dans leur quotidien, presque d'heure en heure, que ce soit dans le foyer, dans la nature, où elles s'incarnaient, etc. Donc, on a des résidus de cette pensée magique, qui est peut-être anthropologique, je n'en sais rien et je laisserai à d'autres le soin de le dire, mais pourquoi certaines passent le temps et pourquoi certaines sont créées? Alors, il y en a qui disparaissent, il y en a qui évoluent, on se rend compte que les superstitions, d'abord, elles changent d'un lieu à l'autre. Le chat noir porte bonheur en Aquitaine, il va porter malheur ailleurs, enfin bon. Et puis, il y en a qu'on crée. Et là, moi, je trouve très drôle une des dernières superstitions créées, qui est celle de se regarder dans les yeux quand on boit. Je ne sais pas d'où ça vient, probablement des États-Unis. Et c'est une superstition qu'on n'aurait jamais trouvée dans les siècles précédents. On ne regardait pas quelqu'un dans les yeux, ça portait malheur. On croyait au mauvais œil, on savait pas à qui on avait affaire, et donc on évitait de regarder les gens dans les yeux. Voilà.
Alors,
ça
moi, j'ai lu justement, toujours en préparant cette émission, et vous allez pouvoir confirmer ou infirmer, Marie-Charlotte Delmas, qu'on se regardait justement au Moyen-Âge dans les yeux en trinquant, parce qu'il y avait beaucoup d'empoisonnement à cette époque, et que c'était peut-être pour vérifier dans le fond de l'œil de celui avec qui on trinquait qu'on n'était pas victime d'un empoisonnement.
Alors, ce sont des explications a posteriori, complètement inventées, me semble-t-il, parce qu'on ne retrouve pas du tout cette superstition, ni dans les superstitions citadines, ni dans les superstitions locales, avant ces derniers temps. Et c'est comme le vendredi 13, où certains disent « Ah, c'est parce que Jacques de Molay est mort, enfin le grand maître de l'ordre du Temple est mort un vendredi 13, que le vendredi 13 est devenu un jour maudit. » Mais les paysans, ils n'avaient pas les chaînes d'infos à l'époque, ils savaient pas qui était mort, les Templiers, ils s'en fichaient un peu. Donc voilà. Donc on crée a posteriori des espèces d'explications. Il vaut mieux dire qu'on ne sait pas, et en tout cas
on prend moins de risques.
mais en tout cas le poison dans le verre. Enfin, je
vous n'y croyez pas.
Ah non, mais alors, pas une seconde.
Sur l'appli de France Inter, Mélodie nous dit: je voulais témoigner de la superstition de ma grand-mère que je trouve incroyable. Lorsqu'elle va au casino pour s'amuser sur les machines à sous, elle va toucher l'écran d'une certaine manière sur les images qui correspondent à une somme importante. Cela fonctionne pas 9 fois sur 10, mais la fois où ça marche, elle va dire: tu vois, ça marche. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça touche tout le monde, y compris les ingénieurs du CNES. Je lisais dans le journal Le Monde cette histoire incroyable d'un journaliste du Monde qui était présent deux fois, et deux fois le lancement s'est mal passé, la troisième fois, il n'a pas eu le droit de revenir. Et également, c'est toujours avec le CNES, c'était le président du CNES qui faisait à chaque fois le tour de la fusée avant le décollage, en écoutant tout le temps la même chanson des Rolling Stones, parce que ça fonctionnait, et que la fois où il ne l'a pas fait, eh bien justement, il y a eu un problème, Sébastien Boller, sur cette idée que ça touche tout le monde, même les ingénieurs du CNES.
Ça touche tout le monde quand on arrive dans une situation qui contient trop d'impondérables. Qu'à un moment, vous ne savez pas vraiment si vous avez entièrement la main sur ce qui va arriver, il vous reste plus que ça. Ce qui est frappant, c'est que ça semble améliorer en fait la performance de l'individu. Il y a des études qui ont été menées, par exemple, dans le milieu sportif, sur les joueurs de basket. Vous savez, il y en a qui ont des rituels avant les lancers francs, qui font un certain type de mouvement pour se préparer. Et le fait de pouvoir faire ce rituel, de calibrer ses mouvements d'une certaine façon, de réaliser une suite d'actions qui a été associé au succès par le passé, ça augmente les performances, on mesure en nombre de taux de succès au lancer franc. Il y a beaucoup de sportifs qui ont des tas de petits rituels avant d'entrer sur un terrain de foot. Il y avait par exemple, il est toujours d'ailleurs, Nadal
le tennis, très connu pour ça, mais qui s'approche presque même des tocs tellement.
Ah oui.
Il y en a.
Mais
toujours ses bouteilles d'eau de la même façon, il met toujours ses chaussettes exactement l'une comme l'autre, la droite comme la gauche, au même niveau sur le mollet.
Oui, et ça a été interprété aussi en rapport avec les tocs effectivement, puisque un des aspects des tocs, c'est l'angoisse, hein, l'angoisse de fond de la personne qui souffre donc du trouble obsessionnel compulsif et qui réalise parfois des rituels afin d'apaiser vraiment l'angoisse. On connaît bien la circuiterie du cerveau qui permet d'apaiser cette angoisse. Et y a certainement un lien entre le rituel, la performance et le fait d'être confronté au hasard. C'est très frappant, hein. C'est très amusant les expériences qu'on fait dans les laboratoires, par exemple, où on vous amène dans une pièce où tout est désordonné. Vous savez plus où trouver un stylo, un papier, où est l'écran, où est l'interrupteur. Et ensuite, on vous met devant un écran qui montre des motifs aléatoires, des parasites comme sur un écran de télé. Et si vous avez été confronté à une situation totalement désordonnée, vous allez avoir tendance à voir des formes, des motifs, des visages parmi les parasites. Votre cerveau va plaquer du sens, quelque chose, des motifs qu'on peut discerner simplement parce qu'il ne supporte pas d'avoir été placé dans une situation désordonnée juste avant. Et la meilleure preuve, c'est que si on vous permet de mettre de l'ordre dans le bureau avant d'aller devant l'écran, vous ne voyez plus ces formes d'ordre compensatoire.
Sur franceinter.fr, Jennifer nous demande: est-ce que c'est pas aussi lié à une quête du bonheur, finalement, toucher du bois, ça, si ça peut nous apporter du bonheur, bah autant le faire dans le doute, on sait jamais. Ariel Suami.
En écoutant ce que vous dites là, je me demande quand même si on n'utilise pas le mot superstition un peu pour tout, parce que là on vient de parler de rituels, de mise en disposition physique, corporelle, qui ont leur utilité, mais est-ce qu'on est encore dans la superstition? Je pense qu'il faudrait quand même définir le terme si on veut vraiment avant de faire le catalogue, parce que madame, par exemple, a fait un dictionnaire des superstitions très intéressant, mais quelle est la définition initiale de la superstition? Je me pose surtout cette question à propos...
Quelle est la vôtre?
Je me pose surtout la question parce qu'on a parlé de croyances, en des signes, etc. Est-ce que ça, c'est de la superstition? Alors, le philosophe qui m'intéresse particulièrement, Spinoza, il dit, lui, que ce n'est pas ça encore la superstition. Le fait de croire qu'il y a des intentions dans la nature, qu'il y a des êtres supérieurs qui décident de tout, pour lui, c'est simplement de la croyance. Ce n'est pas encore la superstition. La superstition, elle intervient à un moment bien précis. C'est lorsque chacun cherche à obtenir de ces êtres supérieurs que l'on croit diriger la nature, une aide spécifique, singulière pour eux, de façon à ce que la nature soit tout entièrement organisée autour de son intérêt à lui. Et à ce moment-là, il y a une rivalité entre les hommes, parce que chacun va inventer un culte particulier, c'est-à-dire des rituels particuliers, pour obtenir les faveurs des dieux. Et à ce moment-là, effectivement, on est dans la superstition, c'est-à-dire on est dans la rivalité, et dans alors que la religion initiale, disons ce qu'on pourrait appeler la croyance initiale, c'était pas autre chose que une croyance essentiellement positive à des êtres qui nous veulent peut-être du bien, qui ont tout organisé pour nous. Lorsque cette croyance devient superstition, ça se renverse complètement. On croit au contraire qu'il y a des êtres dont il faut conjurer l'action, sinon il va nous arriver des malheurs. Et c'est un moyen d'obtenir du pouvoir sur les autres. Donc la superstition, en fait, apparaît au moment où l'on cherche à s'emparer des croyances pour obtenir du pouvoir sur les autres hommes.
Alors là, ça devient politique.
Alors là, ça devient effectivement politique, tout à fait.
Sébastien Boller.
Oui, mais alors en anthropologie, il y a certaines interprétations de la croyance religieuse qui partent en fait du besoin de contrôler le naturel en demandant l'intercession des divinités. Et donc le besoin d'obtenir quelque chose de la divinité serait au départ de la croyance. Oui. Lisez des anthropologues comme Malinowski, par exemple, sur les pêcheurs mélanésiens, tout part du désir de se protéger, d'obtenir une pêche favorable. Et à la limite, si la base de tout, c'est d'obtenir un avantage spécifique, même la prière, à ce moment-là, est une superstition. Ça se confond un peu, je trouve, dans certains plans.
Sur franceinter.fr, beaucoup de messages, comme celui de Jean-Michel, qui nous dit « Ne faut-il pas considérer les religions comme des superstitions ?» Marie-Charlotte Delmas.
Ben oui. En fait, c'est très intéressant parce que ce terme de superstition, jusqu'au début du XXe siècle, en tout cas, dans tous les livres qui évoquaient ces superstitions, on y place tout l'univers des croyances populaires liées au surnaturel. C'est d'ailleurs l'objet de mon travail. Et dans les croyances liées au surnaturel, il y a les religions. Et comme ce sont les anciens païens qui ont, par exemple pour le christianisme, puisqu'on est dans des époques en France où c'est le christianisme qui prédomine, bien entendu, donc les païens qui vont créer le christianisme vont reprendre les codes du paganisme, ce qu'ils connaissent. Et donc, du coup, on va trouver les cierges qu'on portait près des pierres sacrées, par exemple, on va les retrouver dans les églises. On va retrouver les ex-voto romains, qui étaient ces petits objets qu'on mettait près des dieux à qui on demandait d'être guéris, ou qu'on remerciait pour quelque chose, on va les retrouver dans les églises. Donc effectivement, si on prend cette acception de la superstition comme des croyances populaires liées au surnaturel, les religions, effectivement, sont très superstitieuses.
Mais alors, renverser la salière, ça porte vraiment malheur ou pas ?
Alors, ben là encore, on est dans le domaine religieux. Le sel était sacré, le sel des sacrements, hein, d'ailleurs, le sel du baptême. Et puis le sel, c'était un aliment rare et sacré. Donc, renverser la salière, c'est une superstition assez ancienne et qui, effectivement, porte malheur. Voilà.
Sur franceinter.fr, Tom nous dit avec beaucoup d'humour « Certes, j'étais superstitieux, mais un jour j'ai allumé 13 cierges dans une église un vendredi 13 et depuis je ne suis plus superstitieux et pour ne pas récidiver, je recommence tous les vendredis 13. » Pourquoi sommes-nous à ce point attachés aux superstitions? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi et on attend toujours vos réactions sur le site ou sur l'appli de France Inter. Et il est déjà midi 47, nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Light a candle for the suffering.
Courtney Barnett, c'est le nom de la chanteuse High Streets. Le titre de la chanson, c'est Thierry Dupin qui choisit la musique. Stéphane Ronxin réalise l'émission avec à la technique aujourd'hui Arnaud Caillé. Mathieu Bellini et Thomas Gentil m'ont aidé à la préparer. Merci à vous tous.
Thomas Chauvineau.
Le 13, ça va nous porter la chevrotte.
Le débat de midi.
Quatre invités pour parler des superstitions. Aujourd'hui, Sébastien Boller, qui est docteur en neurobiologie et rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Ariel Souamy, qui est directeur, docteur en philosophie et directeur de la vie des idées chez PUF. Marie-Charlotte Delmas, qui est sémiologue. Et puis Nicolas Gauvry, qui est psychologue, également mathématicien. Et puisqu'on on parle de maths, je pense à cette expérience, Nicolas Gauvry, de chiffres. Quand on jette un dé et qu'on veut obtenir un 6, ça a été, il y a eu des études réalisées là-dessus, on a tendance à jeter le dé plus fort parce que 6, forcément, c'est plus grand que 1.
Oui, ça, c'est un des résultats que je trouve amusant, des prémices, on pourrait dire, d'une superstition. C'est que, effectivement, quand on veut obtenir un nombre plus grand, on jette le dé plus fort. Et alors, je dis prémisse parce qu'il n'y a pas forcément vraiment de croyance derrière. Et d'ailleurs, je pense que ça peut aussi se dire des autres superstitions. C'est-à-dire, il y a tout un continuum entre des gens qui croient vraiment que s'ils font quelque chose, il va leur arriver malheur, par exemple, et d'autres qui n'y croient pas vraiment, mais le font quand même. Donc, par exemple, on peut très bien jeter le dé plus fort tout en se disant que ça va pas faire augmenter la probabilité d'obtenir un 6, mais parce que on ressent le besoin de le faire ou parce qu'on se dit que on sait jamais, même si on n'y croit pas, si ça donnait un 1 parce qu'on ne l'a pas lancé fort, on s'en voudrait, et donc pour éviter de se sentir coupable.
Dans les deux cas, finalement, on y croit en quelque sorte.
Voilà, on pourrait dire ça, mais on y croit, disons, on adhère aux croyances avec un certain degré qui vraiment évolue et qui est variable. On y croit plus ou moins, comme les gens qui regardent les horoscopes, par exemple, tout en pensant que ça fonctionne pas, mais ça les amuse quand même. Et puis, ils y adhèrent un petit peu quand même. Ils pensent quand même que ça dit quelque chose, mais ils affirmeraient pas que c'est vrai. Voilà, c'est un peu... Ça peut paraître étrange, mais on adhère plus ou moins comme ça aux croyances.
Sur franceinter.fr, Arnaud nous dit « La superstition n'apporte-t-elle pas un peu de poésie et de magie dans un monde qui peut en sembler dépourvu ? Bon week-end », nous dit Arnaud. Ben, merci, bon week-end également à vous. Et c'est vrai que vous n'êtes pas le seul, Arnaud, à vous poser cette question. C'est Goethe qui disait « La superstition, c'est la poésie de la vie. C'est pourquoi il n'est pas mal que le poète soit superstitieux. Marie-Charlotte Delmas. »
Bah écoutez, je ne sais pas si c'est la poésie de la vie. Ce que je sais, c'est que par contre, notamment au XIXe siècle, c'est le quotidien des gens. C'est-à-dire que on a des rituels à peu près pour tout, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'élevage, de la peur des sorciers, de la peur des mauvais esprits, etc. Voilà, donc à l'époque, on n'est pas trop dans la poésie, mais on est dans la peur du lendemain. Comme d'ailleurs le disait votre invité, par rapport aux gens à risque, effectivement, les gens à risque, les artistes, les sportifs, mettent en place des rituels pour se rassurer. Eh bien, voilà, donc je ne suis pas sûre que ça soit de la poésie.
Les hommes politiques aussi ont beaucoup de rituels.
Oui, oui, et puis il y a des rituels qu'on a gardés qui sont devenus des gestes de politesse. Par exemple, on dit qu'il faut mettre sa main devant sa bouche quand on bâille. Or, c'est une très vieille superstition, très ancienne. En fait, on met la main devant sa bouche parce que quand on bâille, on aspire, et comme il y a des mauvais esprits dans l'air, on peut aspirer les mauvais esprits. De la même façon, quand on éternue, eh bien, on fait partir les mauvais esprits ou les mauvaises humeurs du corps, et on vous dit à vos souhaits. On disait par Jupiter chez les gréco-romains. Voilà. Donc il y a des
choses. Sur France Inter aussi, on a beaucoup dit par Jupiter.
Oui, par Jupiter. Et donc il y a des choses comme ça. Le fait de montrer du doigt, on dit aux enfants, faut pas montrer du doigt, c'est mal poli. En fait, quand on montre du doigt, quand on désigne. Qu'on désigne, eh bien, on peut porter malheur à quelqu'un. Donc, c'est un geste qui est plutôt un geste de sorcier. Donc, on a peur de ce geste. C'est un geste superstitieux. Voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça qui sont passées
dans l'usage courant. Il y a certaines superstitions qu'ont disparu, mais aussi qui reviennent. Je pense notamment à ce qu'on appelle les arbres à loques, qui au Moyen Âge servaient de rempart contre les épidémies et qu'on a vu revenir là avec la pandémie liée au Covid, notamment dans les Hauts-de-France, Ariel Suami.
Pardon, je n'ai pas bien.
Ah, vous étiez en train de
dire la question.
On parlait de ces superstitions qui disparaissent, mais que là, en l'occurrence, que la pandémie a fait revenir, celle des arbres à loques, qui consiste à accrocher des morceaux de tissu sur l'arbre pour faire fuir la maladie.
Oui, oui, c'est intéressant. Je crois qu'effectivement, l'épidémie là a suscité un renouveau de la superstition et la montre un peu à nu, en quelque sorte, parce qu'indépendamment de ce genre de pratique, il y a l'idée générale selon laquelle tout cela résulterait d'une sorte de complot international. Et puis, il y a aussi l'argument des anti-vaccins, qui est typiquement superstitieux, qui consiste à utiliser l'argument de réduction à l'ignorance. C'est-à-dire, on ne sait pas finalement ce qui peut arriver, quand bien même la science aurait démontré 12 000 choses, de toute façon, elle ne peut pas tout démontrer. Et le superstitieux, c'est toujours celui qui va chercher le point d'ignorance pour en faire un argument, et pour dire, vous voyez, on ne sait pas tout, donc c'est qu'il y a derrière l'inconnu, il y a des puissances surnaturelles qu'on ne peut pas maîtriser et devant lesquels il faut utiliser d'autres pratiques, c'est-à-dire des pratiques de conjuration, etc.
C'est vrai qu'elles sont toujours plaisantes, ces superstitions, mais il faut aussi savoir s'en méfier, Sébastien Boller.
Oui, je crois que ce que vous venez de dire nous amène en plein dans le cœur du débat, c'est-à-dire qu'il y a un moment où elles peuvent être une entrave à la prise de décision rationnelle quand il s'agit d'avoir des véritables résultats. Aujourd'hui, on sait qu'on ne soigne pas un cancer ou une infection virale majeure par des pattes de lapin. Et donc l'enjeu là se situe vraiment sur cette espèce de bras de fer qui existe en chacun de nous peut-être, entre l'irrationnel, la croyance, la pensée magique d'un côté et la rationalité de l'autre. Et certaines personnes superstitieuses le vivent, hein, ce conflit intérieur. Vous parliez tout à l'heure de certains chanteurs, on avait écrit, je crois que c'est Nicolas Gauvry, c'est moi qui a écrit dans Cerveau Psycho un article là-dessus, sur Julien Doré par exemple, qui adore avant chaque concert, ouvrir toujours la même bouteille de bière avec le même briquet et qu'il a besoin de ça pour bien faire son concert. Et il a conscience que c'est une superstition et il s'en amuse. Et aujourd'hui, on est dans ce débat entre rationalité et superstition.
Eh bien, merci à tous les quatre pour vos interventions dans ce débat de midi. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi pour parler des ovnis. Beaucoup de phénomènes sont expliqués, mais il reste une petite part de mystère. Comment étudier les ovnis sérieusement? C'est la question qu'on se posera lundi. On attend déjà vos réactions sur le site ou l'appli de France Inter.